travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le Dr Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par France World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiuto. Bonne écoute à tous.
Entends-tu? Un saint hymne s'éclate des cieux. Les voix parcourant l'espace disent à tous les hommes, la loi fait place à la grâce. Jésus vous tend la main, saisissez-la dès maintenant. Gloire à Dieu. Emmanuel Mubitang est à la prise de son. L'instruction à travers la Bible-ci est la 1125e tirée du livre du prophète Michée, chapitre 6, du verset 6 à 8. Après l'écoute, communique-moi, s'il te plaît, tes points de vue à propos de cette méditation. Contactons-nous. Retiens déjà nos points de correspondance que voici.
À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06 BP 21 31 Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Mobile 00 225 05 51 49 06. Email twr2131@yahoo.fr. Site www.twrafrica.org.
Quiconque croit en l'existence de Dieu, s'il est sincère, est confronté à cette question-ci. Comment pourrais-je m'approcher de Dieu? Peut-on rentrer en contact avec lui et comment? En réponse à ces questions, plusieurs se font malheureusement des idées et se fabriquent des masques, des idoles qu'ils nomment Dieu et qu'ils invoquent. Des gens dits civilisés tombent même dans cette bassesse devant des figurines et autres idoles qu'ils croient être des dieux et les prient. Pourtant, le Dieu de l'univers est vivant. Il se manifeste jour après jour. Dans notre précédente méditation, le prophète Michée de Mérochette nous a fait voir le Seigneur, l'Éternel, plaider avec son peuple, afin qu'Israël, son peuple, revienne à lui, en se repentant de sa grande négligence et de ses péchés. Dieu s'est pleinement montré à eux en leur accordant le rachat dans le passé. Il les a fait sortir par sa main puissante de l'esclavage de l'Égypte et les a conduits pendant plus de 40 ans dans le désert. Puis, longtemps plus tard, après les avoir délivrés de Babylone la Grande, les Israélites consciencieux, honnêtes et sérieux se voient confrontés à cette importante question. Mais comment vais-je m'approcher de mon Dieu? Ensuite, ils se posent d'autres questions telles, Michée chapitre 6, verset 6, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux, des nains? Bien. La première question du peuple est la suivante. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? En d'autres termes, qu'est-ce qui ne va pas entre moi et Dieu? Pourquoi n'est-il pas content de moi et du peuple? Je ne comprends pas. Pourtant, nous observons les rites et la liturgie et toutes les traditions religieuses. Nous pratiquons les formes extérieures telles qu'il nous a demandé de respecter. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Et amis, Dieu leur a également donné une relation particulière avec lui qu'ils ont malheureusement perdue. Et ils reviennent à nouveau à cette question. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Avec quoi me présenterai-je? Que lui donnerai-je? Il est loin là-haut et moi je suis là en bas. Comment l'atteindrai-je? Comment communiquerai-je avec lui? Comment entrerai-je en contact avec lui? Comment lui serai-je agréable? Et comment serai-je sauvé? Tu vois, le gardien, le geôlier de la prison de la ville de Philippe, qui était païen, a demandé à l'apôtre, « Que dois-je faire pour être sauvé? Comment puis-je être juste aux yeux de Dieu? » Voilà. Ça, c'est une bonne question et il n'y a rien de mal à la poser. La deuxième question du peuple est celle-ci. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Dieu leur avait ordonné de faire des sacrifices. Dans le livre du Lévitique, Dieu leur avait donné 5 sacrifices qu'ils devaient faire, qu'ils devaient pratiquer pour s'approcher de lui. Les Israélites posent donc la question, sera-t-il juste de simplement pratiquer les formes extérieures de la religion? Tu vois, le raisonnement de l'homme se transforme maladroitement toujours pour aboutir à ce seul point que voici. Moi, homme, je dois faire quelque chose pour Dieu. Dieu désire que je fasse quelque chose. Sinon, comment est-ce possible? Permets-moi de dire que cela, plus que toute autre chose, révèle la fierté, l'orgueil du cœur de l'homme, vouloir faire quelque chose pour Dieu. L'être humain, nous nous sentons à l'aise intérieurement quand nous accomplissons un acte que nous jugeons bon. Nous nous jugeons bon, généreux, quand nous faisons un don. L'homme qui n'est pas sauvé dit, bon, je vais à l'église. En tout cas, je suis un membre d'église, je donne généreusement mon offrande et même ma dîme. Et quand on me demande de faire quelque chose, je le fais. Je suis un homme éclairé, un homme civilisé. Je ne me promène pas en train de faire palabre avec des hommes, des personnes. On me considère comme une bonne personne. Je suis un gars que chacun aime. Alors, pourquoi Dieu peut-il m'en vouloir dans ce monde encore? Mais dois-je faire quelque chose d'autre? Oui, j'ai le sentiment que je devrais faire quelque chose encore en plus. Tu vois, ami, nous nous demandons, que dois-je faire pour être sauvé? Souviens-toi, les gens sont venus au Seigneur Jésus et lui ont demandé, que ferons-nous afin de faire les œuvres de Dieu? Et le Seigneur Jésus dit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean 6, versets 28 et 29. Il dit, croyez au Christ et vous serez sauvés. Dieu ne vous demande rien d'autre que de croire en celui qu'il a envoyé. Sinon, penses-tu donner quelque chose à Dieu? Mais quoi? Que peux-tu donner au Dieu qui a créé tout l'univers? Soyons sages. La seule œuvre que l'Éternel te demande, c'est de croire. Crois. Est-ce que tu sais que la foi, la confiance totale en Dieu, est opposée aux œuvres? Alors, crois. Or, quand tu crois, quand tu as la foi qui sauve, cette foi qui sauve travaille. Oui, elle travaille. Elle produit des œuvres. Les œuvres qu'elle produit ne sont point celles qui te sauvent, car déjà tu es sauvé. Mais ces œuvres font la joie du ciel. Elles réjouissent le Seigneur. tes œuvres n'ont rien à voir avec ton salut. Et c'est la seconde question des enfants d'Israël. C'est la question normale de l'homme en général. Puis le peuple pose maintenant une troisième question. Michée chapitre 6, verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour mon propre péché, le fruit de mes entrailles? Voilà. Le peuple d'Israël dit, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Oh, quelle expression de générosité et quelle bonté débordante! En d'autres termes, le peuple pose cette question. Est-ce parce que nous n'avons pas assez fait pour Dieu? Devrions-nous faire plus pour Dieu, pour lui plaire? Aujourd'hui, nous entendons la même question. J'avais l'habitude de jouer au volleyball avec un homme très riche. Un jour, à l'approche de Noël, il me dit, « Docteur Vernon, j'aimerais que tu saches quelle est ma religion. Ma religion, c'est la générosité. La générosité. Je crois profondément en la générosité. Faire du bien. Chaque année à Noël, Vernon, je donne une bonne prime à mes employés et je soutiens plusieurs œuvres. Je soutiens beaucoup, beaucoup mon église également. Quoi d'autre Dieu pourrait-il demander de moi? En d'autres termes, je dépense beaucoup pour les œuvres du Seigneur. Je fais tout cela. Que pourrait-il me demander en plus? Mais ami, quelle est la question? Est-ce que nous devons être très généreux dans ce que nous faisons? Est-ce là notre problème? Et puis beaucoup d'autres l'expriment ainsi. Eh bien, peut-être que je n'en fais pas assez, je ne donne pas assez. J'ai le sentiment de ne pas être en règle avec Dieu. Il me semble que je n'en fais pas assez. Amis, ce sont là des gens sincères. Ils sont sincères, mais parce qu'ils ne sont pas sauvés, bien qu'ils soient membres d'église, ils ont le sentiment qu'ils doivent faire un peu plus que ce qu'ils ne font. Ils croient que leurs œuvres forcera la main du Seigneur. Un prédicateur libéral qui emploie l'aspect psychologique dit, « Regardez mes amis, vous n'en faites pas assez. Allez, allez au-delà. » Et alors l'interlocuteur, le religieux, plonge sa main un peu plus profondément dans sa poche. C'est tout. C'est là les moyens. Et il dit, « D'accord, d'accord, je donnerai un peu plus. » J'espère que Dieu sera aux anges avec cela. Il sera certainement satisfait de moi. Dans ta communauté, n'y a-t-il pas un tel prédicateur libéral qui demande et demande toujours? Mais la quatrième question que les enfants d'Israël posent dépasse grandement la moyenne. Elle est extrême. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour mes propres péchés le fruit de mes entrailles? Cela avait beaucoup de sens pour les Israélites parce qu'ils étaient entourés de peuples païens qui, dans l'adoration de Moloch et de Baal, ces fétiches-là, offraient des sacrifices humains. Israël a ainsi pris ce chemin ténébreux. Deux des rois les plus impies du royaume du Sud, Akaz et Manassé, se sont adonnés à ces pratiques de sacrifices humains. Ces deux hommes ont offert leurs propres enfants en holocauste, en sacrifice. Mais est-ce ce que demande le Seigneur? Je veux dire très clairement que Dieu n'a jamais demandé à ces personnes d'offrir leurs enfants en sacrifice. Jamais, jamais. Le Seigneur demandait qu'il lui donne tout premier-né mâle, que ce soit une vache, un mouton, un bœuf ou leur fils. Mais Dieu a fait comprendre très clairement qu'il ne désirait pas de sacrifice humain. Il y a beaucoup de passages des Écritures qui parlent de cela. Je vais me limiter à quelques-uns d'entre eux qui, il me semble, illustrent parfaitement mon sujet. Au chapitre 18 du livre des Nombres, le Seigneur a donné un certain nombre de règles au peuple et leur a dit ce qu'il attendait d'eux. nous lisons ceci. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, homme et bête, sera pour toi. Seulement, tu prendras une rançon pour le premier-né de l'homme, et tu prendras une rançon pour le premier-né d'un animal impur. C'est écrit en Nombre 18, verset 15. Vois-tu, Dieu réclamait le premier-né. Dieu dit que le mâle premier-né lui appartient. Seulement une rançon, c'est-à-dire de l'argent, devait être payée. En d'autres termes, Dieu n'accepte ni un sacrifice humain, ni le sacrifice d'un animal impur. Et je pense qu'il y a là un point intéressant. L'homme est impur. L'homme est impur. Aujourd'hui à l'Église, nous présentons des nouveau-nés au Seigneur, et c'est une très bonne chose. J'ai moi-même eu le privilège de consacrer plusieurs milliers d'enfants au Seigneur. Certains d'entre eux ont pris une très bonne direction dans la vie. Et une fois, une femme m'a amené un jeune homme et a dit, « Docteur Magui, tu l'avais présenté au Seigneur quand il était bébé. » Et je remercie le Seigneur parce qu'il suit une très bonne voie. Mais, ami, j'en ai aussi présenté d'autres qui ont abouti dans quelques-unes de nos meilleures prisons. C'est très bien de présenter ton enfant au Seigneur, mais ce n'est pas une garantie pour qu'il tourne toujours bien. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, vous devez racheter l'enfant. Vous devez verser une rançon pour lui. Je ne le prendrai pas maintenant. Pourquoi? Une rançon pour le premier-né de l'homme. Il est comme l'animal impur. Il est impur. Et, mon cher, c'est pourquoi une femme qui mettait au monde un enfant était impure. Elle avait introduit une chose impure dans le monde. Tu sais, David a dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, verset 7. Dieu ne veut pas d'un enfant tant qu'il n'est pas racheté. Nous devons attendre que notre enfant reçoive Jésus comme son sauveur et quand il le fait, Dieu peut prendre cet enfant et l'utiliser maintenant. Dieu ne le prendra pas et ne l'utilisera pas avant. Il faut que l'enfant décide de suivre volontairement le Christ. Dans le livre de l'Exode, nous lisons « Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes, tout est né chez les Israélites, il m'appartient. » Exode 13, verset 2. Mais en Lévitique, dans le livre de Lévitique, nous trouvons ensuite cette partie. Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 18, verset 21. En d'autres termes, Dieu dit, n'offrez pas de sacrifice humain. N'offrez pas de sacrifice humain. Ne prenez pas votre enfant pour l'offrir en sacrifice. Vous profaneriez mon nom en faisant cela. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce verset fait la joie des chrétiens libéraux parce qu'ils pensent que le verset ouvre la voie à une religion basée sur des œuvres et qu'il permet d'enseigner le salut par les œuvres. En fait, le prophète Michée répond ici aux questions de beaucoup de gens sincères du royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, qui vivaient dans le noir total parce que ces gens n'ont pas été instruits dans la parole de Dieu. Ceux-là voulaient savoir comment s'approcher de Dieu. Ils voulaient savoir s'ils devaient se présenter avec des holocaustes ou avec un nombre beaucoup plus grand d'offrandes ou bien s'ils devaient offrir leurs propres enfants en sacrifice humain. Voilà où ils en sont arrivés. Et Michée répond à toutes ces questions. Il dit, Dieu ne demande aucune de ces choses. Le Seigneur ne demande aucune de ces choses. Une religion extérieure sans une véritable expérience intérieure est tout à fait sans valeur. Aller régulièrement au culte, participer à toutes les réunions, à tous les rassemblements, n'ont de valeur que si l'homme intérieur est touché et transformé. Dans le cas contraire, c'est comme le cercueil, joli dehors et pourriture dedans. L'individu doit passer par une nouvelle naissance. Une nouvelle nature doit lui être donnée. Les éléments extérieurs ne constituent pas le côté important. Dieu ne commence jamais par là. Si tu veux savoir en quoi Dieu se réjouit et ce qu'il demande de l'homme, ce verset répond à ton interrogation. J'aimerais que nous lisions ce verset avec attention et dans les détails. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Note tout d'abord qu'il a dit « ô homme ». Cela veut dire que le message s'adresse non seulement à l'homme d'Israël, mais aussi à l'homme d'Amérique, à l'homme d'Afrique, d'Europe, partout sur la terre. Quelles sont les trois choses que Dieu demande? Premièrement, tu dois pratiquer la justice, ce qui est droit, c'est-à-dire tu dois avoir une justice à présenter à Dieu, tu dois être une personne juste, équitable dans tes relations avec ton prochain, tu dois être honnête. Deux, que tu aimes la loyauté. Tu dois non seulement aimer la miséricorde de Dieu, mais tu dois également exercer la miséricorde envers les autres. Et trois, tu dois marcher humblement avec ton Dieu. Mais comment vas-tu faire ces choses? Vas-tu les faire par tes propres forces? Peux-tu pouvoir les faire sans l'aide de Dieu? Penses-tu pouvoir les faire sans le salut de Dieu? Si tu le peux, selon toi, je vais te dire quelque chose de très fort. Je t'apprends que là, tu es un hypocrite. Écoute, ne me dis pas que tu vis selon ce code moral, par tes propres efforts, sans la puissance de Dieu. Tu ne le peux pas pour la simple raison que toutes ces qualités sont le fruit du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. C'est écrit en Galates 5, versets 22 et 23. Les trois choses que Michée évoque sont l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Aucun de nous n'a aujourd'hui ces choses dans sa vie. Regardons quel est l'enseignement du Nouveau Testament à ce sujet. Écoute les paroles d'un homme qui vivait sous la loi au chapitre 15 du livre des Actes, quand les apôtres étaient en train de décider si les gentils devraient respecter la loi pour être sauvés. Simon Pierre se leva et dit, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. » Acte 15, verset 11. Pourquoi a-t-il dit cela? Pourquoi Pierre a-t-il dit cela? Parce qu'il venait de dire au verset 10, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter ?» Simon Pierre dit, « J'ai vécu sous la loi. » Et moi, Vernon, je crois qu'il ne s'en est jamais trop éloigné, même après avoir été sauvé. Et cependant, Pierre dit, « J'étais incapable de vivre en conformité avec ses exigences. » Ami, comment l'Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Le Seigneur Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau en recevant le Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, elle a donné le droit, l'autorité de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, c'est écrit en Jean 1, verset 12. En Romains, chapitre 3, versets 9 à 18, l'apôtre Paul nous présente la condition de l'homme. Il place l'homme devant le banc des accusés de Dieu et il montre que l'homme est coupable. Que fait Paul ensuite? Il l'amène dans l'hôpital de Dieu et montre qu'il est malade, près de la mort. En fait, l'homme est mort. L'homme est mort dans ses fautes et dans ses offenses. L'homme est mort. Aucun homme donc, quel qu'il soit, ne peut répondre aux exigences de Dieu. Le Seigneur demande la justice, mais nous ne pouvons pas satisfaire à cette règle. Paul dit, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Tous sont pervertis. En d'autres termes, il n'y en a aucun qui agisse même selon la connaissance qu'il a. Si tu es chrétien, est-ce que tu vis vraiment en accord avec ton idéal, toi chrétien? As-tu atteint le but que tu t'es fixé? Réponds à cette question personnellement. Moi, je ne l'ai pas atteint. Mais dis-moi, toi, as-tu atteint ce stade dans ta vie où tu peux t'estimer tout à fait satisfait de ta vie chrétienne? Permets-moi de te dire que même nul d'entre nous n'agit selon la connaissance qu'il a de Dieu. Nul ne cherche Dieu, nous dit la Bible. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oh, je pourrais multiplier de telles déclarations de l'Ancien Testament. Dieu demande la justice. Mais l'Ancien Testament met en évidence que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec notre justice parce que nous n'en avons pas. Puisque Dieu demande la justice, il doit avoir un changement dans la vie parce qu'il n'y a aucun juste. Il nous a dit que Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Le Seigneur Jésus est ressuscité pour notre justification. Ainsi, par le Saint-Esprit, nous pouvons produire la justice dans notre vie. Ne soyons donc pas hypocrites quand nous sommes devant ce verset dans Michée qui nous dit que nous devons marcher humblement avec notre Dieu. Nul ne cherche Dieu, au contraire, nous voulons nous approcher de lui à notre manière, à notre façon. Oh, combien de versets comme celui-ci, quand ils sont mis en face de nous, nous révèlent ce que nous sommes vraiment en tant qu'humains. Certains se présentent comme étant des personnes polies et gentilles, particulièrement le dimanche, où ils semblent tellement aimables, et pourtant, ils ne sont jamais venus à Dieu selon ses voies. Mon cher, comment peux-tu garder une attitude aussi hypocrite? Pourquoi ne pas être honnête avec Dieu? Viens à lui, confesse-le et dis-lui que tu es un pécheur. Il le sait déjà, mais ce serait bien si tu le dis. Le Seigneur veut te sauver. Il veut pardonner tes péchés et te revêtir de sa justice, la justice de Christ. Marchons par le Saint-Esprit, alors nous accomplirons la volonté de Dieu. Amen.
Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.